italien, plus grec. Hein, c'est pas grec. C'est une histoire américaine faite par un Californien et c'est un produit culturel américain.
J'étais très intéressée parce que je lis peut-être c'est mieux si je le dis in italiano. Ero molto interessata alla metodologia dell'errore di cui parlava lui, nel senso che gli diceva che appunto è importante nel suo lavoro per lui sfruttare l'errore in senso positivo, quindi mi sembrava molto interessante approfondire questa metodologia.
Oui, j'y repensais après parce que je me suis posé des questions sur l'impact que ça pouvait avoir sur des esprits fragiles. Donc je voudrais ajouter que c'est valable jusqu'à un certain point.
Je lis que vous avez dit que à un certo punto il faut prendre le pouvoir et y décider et accepter, mais je voulais comprendre mieux ce
oui,
que vous,
parce que
vous entendez dire.
Quand on dessine d'une manière comment je pourrais dire commercial ou disons populaire, enfin dans une structure de communication, il y a une demande implicite de conformité, de communauté de langage, de respect des règles, de normalité. C'est implicite, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus de l'épaule pour faire la censure. On s'impose ça à soi-même parce que c'est la condition même du succès et du travail. Mais d'une façon insidieuse, ça amène à s'introduire dans un personnage qui n'est pas complètement soi-même ou qui est une idéalisation de soi-même. C'est la partie sociale de soi-même qui se renforce comme une armure extérieure, comme un corset, comme on devient des homards, des langoustes, des crabes. Or, c'est pas vrai, nous sommes avec un squelette interne et notre corps est doux et on doit être capable de se transformer, de grossir, de maigrir, de fondre, d'être des choses plastiques. Et l'erreur, en tout cas pour un dessinateur, puisque c'est là où je suis le plus engagé, c'est d'un seul coup cette possibilité de voir apparaître la mobilité. La mobilité, la surprise, l'imprévu, etc. Et pas par hasard, il faut admettre la théorie que c'est une forme de lapsus qui est très très bien décrite par Sigmund Freud au niveau de la parole et qui est une manifestation de l'inconscient. Vous voyez ? Donc l'erreur de dessin, à un certain moment, peut être intégrée dans une vision métaphysique de l'expression, comme l'éruption du réprimé ou l'éruption du par le canal de l'action individuelle de l'inconscient collectif jusqu'à un certain point.
Et quand il faut prendre le pouvoir,
ben c'est ça, c'est que cette manifestation est toujours énigmatique et sauvage. Elle se présente sous la forme très souvent d'une aberration, d'une transgression, de quelque chose qui serait presque extérieur à soi. C'est tellement intérieur que ça devient extérieur.
Oui, ça...
Donc il faut prendre le pouvoir et s'en approprier comme un diamant. Il faut le sortir de sa gangue, il faut le tailler pour que ça reflète la lumière.
Mais moi je voulais dire avec votre travail dans la bande dessinée, quand il faut... cosa significa prendere il potere nel disegno, dominare questo aspetto nel disegno?
Dans le milieu de la BD, de la dessin, quand il faut prendre le pouvoir?
Ah non, mais moi je parle pas au niveau de la structure sociale, je parle uniquement de ce qui se passe sur la entre soi et le dessin.
Hein. D'accord.
C'est là, mais il faut pas réduire le terme, le concept de pouvoir à l'interaction sociale. Et c'est pour ça que ça devient très suspect. Le pouvoir, ça commence à la naissance et ça continue jusqu'au dernier moment et même au-delà. C'est se tenir debout, c'est une question de pouvoir. Se réveiller, parler, maîtriser la communication, c'est du pouvoir. Et puis aussi être heureux, rendre les autres quelque chose, c'est du pouvoir.
Ouais.
Résister à la pression de l'autre, c'est du pouvoir. Enfin bon, c'est bien tout ça.
Una domanda in qualche modo attinente, diciamo classica, come convivono in lui le due anime, quella più realistica e quella più onirica invece, più...
Dans moi-même, comment ils vivent, la même manière d'avoir une personnalité, l'âme du surréaliste et l'âme de rêverie, de fantasie.
Ça, j'ai pas entendu.
Comment dans vous avez deux âmes.
Ah oui, deux.
La plus réaliste,
oui.
Et la plus de rêve, de rêverie, et comment elle fait à convivre dans le même être.
Eh bien, écoutez, c'est très simple. Il suffit que de regarder en soi la façon dont on communique avec les gens de sa famille très proches et la façon dont on communique avec les étrangers et les gens de passage, ou comme la différence d'attitude, de timbre, d'expression selon qu'on est avec des amis ou avec la hiérarchie, avec des gens qui sont avec qui on a de l'amitié, des gens dont on a peur. On ajuste toujours sa position et son expression. Et ça devrait nous alerter sur le fait que nous sommes, tout en étant extrêmement... tout en étant un, et nous sommes moi d'une façon unique, il y a énormément de voies d'expression et de niveaux de communication possibles. Et c'est pas seulement quelque chose qui est une adaptation à l'autre, c'est aussi faire apparaître en soi des niveaux de conscience différents.
Pas unique, c'est écrit ici.
Qu'est-ce que c'est ça? Il mio doppio.
Moi et moi.
Ah oui.
Ma double moi.
Oui. Mais ça, c'est parce que ça permet de structurer la pensée du livre et la discussion et la biographie, l'histoire. Mais je pense vraiment qu'il y a une unicité du moi, mais que cette unicité est extrêmement complexe et qu'elle comporte différentes strates, et que aussi elle est, bien qu'elle se situe dans un espace abstrait, elle a un dessous, elle a un dessus, elle a une gauche et une droite, il y a une source lumineuse et une source obscure, enfin il y a une source lumineuse qui crée de l'ombre, et on a tous une part d'ombre, on a tous une part lumineuse, on a... malgré notre unicité.
Moi, je trouvais, pas seulement moi, mais tous les mots, je crois, quelque chose de très philosophique dans votre dessin. Et j'aimais bien une image que j'ai vue de vous en train de faire des trekking sur les Stromboli.
Ah, vous l'avez vu ça?
Oui, je l'avais vu et donc j'ai compris. Quand j'ai vu quelle image, j'ai compris, je crois, quelque chose.
Mais est-ce que vous avez vu ça?
C'était dans un livre qu'il a imprimé pour les morts à Venise.
Ah, oui.
Querini Stampaglia.
C'était génial. Je suis monté au Stromboli. Il y avait eu une éruption, disons, exceptionnelle la veille. Et il y avait des bombes partout. C'était extraordinaire. On a vu la sortie du feu. C'était magnifique. Et puis le jour a tombé. Le crépuscule s'est développé. Et quand l'obscurité est revenu, on est redescendu. On est redescendu avec des lampes dans un chemin un peu comme ça. Mais c'était génial, ça a été un des moments vraiment mémorables de toute ma vie. Et alors, ce qui se passe aussi, c'est que sur les pentes du Stromboli, il y a une très 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 bonne pizzeria.
Quel che volevo dire di quando ho visto questa foto ho colto qualcosa che si rispecchia anche nel suo modo di disegnare, ossia una certa sospensione, una certa ricerca nello sguardo del mondo per ricercare anche se stessi, insomma, quindi riportarlo in tante tavole che ho visto che rispecchiano questo senso dell'andare, cioè ci sono tanti dei suoi disegni che sembrano statici.
Quand il a vu cette photo, il a pensé, il a trouvé dans ces images votre quête, votre recherche,
ouais,
et votre manière, façon de chercher quelque chose qui est dans le machin.
Oui, il y avait une forte métaphore dans la situation. C'est pour ça que je fais une petite blague avec la pizza. Mais enfin, c'est vrai qu'il y avait une métaphore. Et alors, ce qui est curieux, parce que j'étais inclus dans un groupe de touristes, hein, c'était. Mais malgré tout, les choses étaient très puissantes.
Métaphore, c'est ça que j'ai pris.
Ah, ça c'est bien.
C'est exactement.
Auparavant, j'avais déjà dessiné des personnes comme ça qui montent une pente, qui sont, on ne sait pas pourquoi, en train de faire un drôle de voyage.
Ouais. Ultima domanda, un conseil alle giovani generazioni di artisti.
La dernière question, un conseil. À les gens qui va commencer à dessiner.
Eh bien, d'abord, je leur recommanderais de bien choisir leurs parents. Parce que je pense que c'est très très important. Vous voyez, par exemple, moi j'ai mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. Et mon père est parti. C'était un personnage vraiment extraordinaire, mais qui, s'il était resté avec ma mère, n'aurait jamais accepté que je fasse quelque chose d'aussi absurde que de vouloir faire de la bande dessinée. Vous voyez ? Donc, au moment, juste avant ma naissance, j'étais avec un conseiller qui m'a dit, voilà, c'est l'incarnation qu'il te faut. Et j'ai eu, en tant qu'âme, j'ai eu une vision globale du destin. Et j'ai dit, oui, c'est exactement ça, parce que si je fais vraiment ce qu'il faut, le père va partir très tôt, ce qui fait que je vais être avec la mère et je vais pouvoir développer mon propre chemin. Vous voyez ? Mais ce qui vaut pour moi n'est pas valable pour deux autres. Pour d'autres, ça va être au contraire l'antagonisme parental qui va développer la force. Vous voyez ? Donc, c'est le seul conseil que je peux donner, bien choisir ses parents, et c'est le seul conseil qui soit valable, parce qu'il est impossible à mettre en... Tout le reste, ce serait une insupportable intrusion dans la liberté.
Merci beaucoup.
Voilà.